Session de théologie par le père Philippe à Saint-Jodard, le 29 août 1991.
Assez longtemps sur cette première tentation parce que elle est fondamentale. D'une certaine manière, elle nous montre comment le démon, dans sa finesse intellectuelle et en même temps dans sa grossièreté d'amour, ça qui est si étonnant dans Lucifer. Il sait qui il peut attaquer et où la personne est vulnérable. Et c'est un anti-éducateur. Un véritable éducateur essaie de chercher les capacités positives de quelqu'un pour compenser tout le temps ses vulnérabilités, pour ne pas le mettre dans ce qu'on appelle aujourd'hui des complexes qui l'empêchent d'avancer. Une mère véritablement éducatrice, la première. Un père, un éducateur, éducation des parents. Saint Jean éducation, vous voyez. C'est d'essayer de découvrir dans l'enfant qui grandit ce qu'il y a en lui de meilleur, par où il est à l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu est si souvent enfouie hein, à cause des conséquences du péché originel. Il n'y a aucune originalité dans les conséquences du péché originel. On est né dans le péché. Nous n'avons aucune originalité dans nos péchés. C'est très très important de se rappeler ça. Au plan théologique, on tombe en dessous du niveau de la mer quand on pêche, par orgueil. On est tous des orgueilleux. On n'a aucune originalité. Notre seule originalité, c'est l'amour qui pousse en nous. C'est par là qu'on est original. La véritable originalité. Un éducateur essaie de saisir ce qu'il y a en nous de positif, connaissant nos vulnérabilités. Le démon anti-éducateur, l'adversaire, cherche à nous enfoncer manière telle qu'on croit ne plus pouvoir se redresser. Toutes les tentations, c'est pour le désespoir. Tout le tour, tout le temps. Il n'y a pas de finalité, il y a la négation dans ce qu'elle a de plus fort. Et la négation dans ce qu'elle a de plus fort pour nous, c'est de supprimer l'espérance, supprimer les désirs. Notre qualité la plus grande, c'est toujours le désir, au sens fort, le vrai désir, la béatitude des cœurs purs, la béatitude des miséricordieux, c'est toujours les désirs. Dieu ne regarde pas en premier lieu nos réalisations, mais Dieu regarde en premier lieu les intentions profondes de notre cœur. Rappelez-vous toujours ce passage de l'Écriture du prophète Samuel qui choisit le petit David. Il y a un dialogue merveilleux là. Et là, on voit très bien la conduite de Dieu par ce prophète. Et comment le choix de Dieu ne regarde pas du tout ce que les hommes regardent. Les hommes, eux, regardent toujours en premier lieu les réalisations. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Et Dieu regarde en nous toujours nos intentions profondes, nos désirs, notre soif. Le cri de soif du Christ. C'est le dernier appel. Et regardez la conduite du pape aujourd'hui, c'est de maintenir le désir dans les jeunes. Il sait que le monde risque de nous conduire au désespoir. Si on regarde les réalisations matérielles. Et le pape veut à tout prix sauver cette jeunesse en péril. Et maintenir un aspect d'espoir, d'appel. Ça, c'est la grande éducation d'Esprit Saint. Le démon, en présence d'Adam et Ève, montre que c'est Ève la plus aimée. C'est Ève qui l'attaque, c'est pas Adam. Et les pères de l'Église ont souligné ça. De fait, parce que c'était la plus fragile, parce qu'elle aimait plus. Plus on aime, plus on est vulnérable. C'est pour ça que les hommes, arrivés à un certain âge, ont tellement de peine d'aimer. Parce qu'ils ont peur de devenir vulnérables. On est très marqué par le stoïcisme. Les stoïciens, c'est la domination de soi. Il y a toujours un peu ça dans l'homme. Dominer l'univers. Jésus ne dit pas dominer votre petit univers, dominer l'univers. C'est pas la même chose du tout. Il y a quelque chose de très particulier, c'est que nous avons beaucoup de peine, tous, il faut le reconnaître. L'homme arrivé à l'âge politique, saint Thomas disait que l'âge politique c'était 45 ans, aujourd'hui, on peut dire que c'est 35, 38 ans, avant 40 ans. Mon désir est un maître de la situation. Mon désir dominer. Et de fait, quand on aime, on accepte de ne pas dominer. Et on devient vulnérable. On devient très fort. L'amour vous donne une force. La force du feu. Une force conquérante. Mais en même temps, on sent sa fragilité. Ce que la femme sent beaucoup moins. La femme a une facilité beaucoup plus grande d'aimer. Elle est la benjamine. Il faut le reconnaître. C'est... Chacun d'entre nous, nous avons reçu de Dieu des dons étonnants. don dominant de la femme, c'est capacité d'aimer. C'est ça, ce qu'on doit voir avant tout. Dieu a créé le couple. Et dans l'homme, il a donné autre chose. C'est, je crois, cette capacité de conquête. L'homme est un conquérant. Et tant qu'il est conquérant, ça va. Ce qui est très difficile pour lui, c'est d'accepter qu'un autre le conduise. Quand tu étais jeune, tu te conduisais toi-même. Tu te saignais toi-même. Donc tu dominais la situation. Et alors je crois que cette première tentation doit nous faire comprendre le regard du démon sur le chef-d'œuvre de Dieu. Le dernier chef-d'œuvre. Et il l'attaque sur son intelligence pour que l'intelligence arrive à dominer sa capacité d'aimer. L'exaltation d'intelligence, que l'intelligence passe avant tout. C'est ça qu'il veut. Et quel point de vue d'intelligence, elle dépasse Adam. Elle est sa trouvaille. Qu'elle n'a pas pensé. Devenir comme des dieux par la connaissance. Alors que la volonté de Dieu, c'est d'être à l'image de Dieu par l'amour. Si je suis attentif à ces 11 premiers chapitres de la Genèse, je vois que ces 11 premiers chapitres de la Genèse me donne le sens de l'imago Dei, de l'image de Dieu. En nous, il y a ces trois dimensions. Dominium, intelligence et amour. On est à l'image de Dieu par cette capacité que nous avons de pouvoir nous orienter, dominer la matière, achever l'œuvre du Créateur. Dieu n'a pas voulu créer un monde parfait pour que l'homme puisse l'achever. Ça, c'est la délicatesse infinie du Père, du Créateur. Si le monde était parfait, tout ce que l'homme ferait abîmerait le monde. Et Dieu a voulu que l'homme puisse, non pas abîmer, mais achever, dominer l'univers. Et dominer l'univers, ça continue, on sent très bien. Pourquoi nous aimons la technique? On arrive à dominer. Et quelquefois, on domine si bien qu'à la place de coopérer avec l'œuvre de Dieu, qu'on l'exploite. Grande question. Est-ce qu'on coopère ou est-ce qu'on exploite? Petite interrogation qui doit toujours être présente. L'homme domine, l'homme connaît, il connaît l'univers et il se connaît. Et l'homme aime. L'image de Dieu implique ces trois dimensions. Qui est le fondement de toute notre vie, toute notre personnalité. C'est l'anthropologie fondamentale, ça. Ces trois dimensions. Et ce serait très intéressant de voir comment ces trois dimensions, on les retrouve dans notre psychologie moderne. Quand on voit ces trois dimensions que les psychologues, les meilleurs psychologues, disent au point de vue de la personne humaine. Charles Audier, quand il essaie de voir la construction de la personne humaine, je crois que c'est ce qu'on a dit de mieux. Quand il parle de sécurité, valorisation, autonomie, les trois sentiments du moi, eh bien vous les retrouvez très nettement dans l'imago Dei. exactement, ceci exprime quelque chose de l'imago Dei. Vous voyez ? Parce que ceci, pour nous, semble lointain, et c'est au cœur de toute la réflexion des pères de l'Église. C'est toujours ce point de vue de l'imago Dei qui, pour eux, est capital. On parle beaucoup d'anthropologie aujourd'hui. Prenons une anthropologie chrétienne. Et l'anthropologie implique comme l'aspect fondamental l'image de Dieu. Et les tentations que nous allons voir rapidement dans ce début de la Genèse, donc les 11 premiers chapitres de la Genèse, montrent comment le démon essaie, par les tentations, de détruire l'imago Dei, à l'image de Dieu et à la ressemblance. Et je vois que, dans ce début de la Genèse, que l'imago Dei implique trois dimensions. Dominium. Dominer l'univers. Connaître l'univers. Connaissance. Intelligence. Et amour. Alors, je mets ici, tout à fait dans la racine, si vous voulez, ce que représente quelqu'un comme Charles Audier quand il parle de autonomie. Sentiment du moi, point de vue psychologique. Ce n'est pas un syncrétisme, c'est un parallèle. Surtout ne faites pas un syncrétisme, il ne faut pas confondre. Il faut voir les résonances analogiques, parallèles. Autonomie, valorisation, sécurité. Psychologiquement, tout dominium implique une autonomie. Psychologiquement, la découverte de la vérité me donne la sécurité. Psychologiquement, ma capacité d'aimer me valorise. Ça, c'est sûr. Je peux prendre, alors, à ce moment-là, au plan psychologique, hein, puisqu'on a indiqué théologie et psychologie, il faut quand même en parler. On est entré dans la théologie. Maintenant, je regarde un tout petit peu ce point de vue psychologique. Qu'est-ce qui lutte contre l'autonomie? Qu'est-ce qui ravage l'autonomie? C'est l'aliénation. Je mets ça en rouge, hein, parce que vous êtes des pauvres types aliénés. Vous êtes en prison. Prison dorée, ne mangez pas du fruit de l'arbre, pauvre aliéné. Vous êtes état de dépendance, aliénation. La sécurité, qu'est-ce qui empêche la sécurité? Qu'est-ce qui lutte contre la sécurité? C'est l'angoisse. Qu'est-ce qui lutte contre la valorisation? C'est la culpabilité. Le démon connaît ça parfaitement. Je n'ai pas demandé ses secrets. Hein. Mais si vous êtes attentif, vous voyez que toutes les tentations sont autour de ça. Vous êtes pauvre et aliéné. Angoisse. Enfin, l'angoisse. On sait ce que c'est. La culpabilité. Mais qui empêche l'homme d'être imago Dei. L'image de Dieu. Notre noblesse, c'est d'être l'image de Dieu. Notre grandeur, c'est d'être l'image de Dieu. C'est très curieux que l'attitude du démon, c'est de nous plonger dans le temps pour nous donner un sens terrible de la relativité. Alors que l'imago Dei nous met en face de l'éternité. Oubliez l'éternité, supprimez l'éternité et soyez plongés dans la relativité du temps. Et alors, l'aliénation, c'est le présent, l'angoisse, c'est le futur, la culpabilité, c'est le passé. La culpabilité, c'est toujours par rapport au passé. On regarde le passé. J'ai tout raté dans ma vie. D'où la culpabilité. L'angoisse, ah, aucune sécurité demain. C'est par rapport au futur. Et le point de vue de l'aliénation, c'est par rapport au présent. Je crois que c'est très important, cela, de bien comprendre. Nous sommes des êtres dans le monde et dans le temps. Et tout le point de vue psychologique est très, très lié au temps et au lieu. Au conditionnement. Les deux grands conditionnements de l'homme. Et le point de vue psychologique nous met très, très fort en face de ce conditionnement. Et on se sert de ce conditionnement pour nous enfoncer dans notre angoisse, dans notre aliénation, dans notre culpabilité, qui fait qu'en nous, il y a cette lutte constante, acquérir l'autonomie, acquérir une sécurité, acquérir cette valorisation, c'est-à-dire comprendre qu'on n'est pas plus bête qu'un autre. Après tout, c'est vrai, il y a une certaine valorisation en nous, que c'est pas si mal ce qu'on a acquis jusque maintenant. Tandis qu'au contraire, le démon nous met tout le temps dans cette culpabilité, dans cette angoisse, dans cette aliénation. Là, il est chez lui. Il n'y a plus de finalité. Vous voyez, le danger du psychologisme, c'est que on regarde uniquement notre conditionnement, oubliant le point de vue de la finalité. Alors que quand vous voyez l'imago Dei, vous voyez que tout est orienté vers la finalité. Alors, c'est cela que nous allons essayer de comprendre rapidement. Comment ces trois dimensions de l'image de Dieu, qui sont l'anthropologie de la sagesse de Dieu. C'est dans la lumière de la sagesse de Dieu. Si je regarde l'homme dans la sagesse de Dieu, il y a ces trois dimensions qui sont fondamentales. Et Jésus renouvelle l'homme par la grâce dans ces trois dimensions qui sont abîmées par le péché. Selon la sagesse de Dieu, tout dominium est ordonné à l'intelligence. Toute intelligence est ordonnée à l'amour. Ça, c'est la finalité. Un excellent examen de conscience, intelligent, non pas moral, mais selon la sagesse de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons une petite zone de dominium. Très difficile à traduire, dominium. Hein. Notre capacité de transformer, notre capacité d'être victorieux, notre capacité, oui, de travail. Le dominium implique le travail. Le travail, il est ici. C'est sûr. Toute notre capacité de transformer notre milieu familial, notre milieu de travail, notre milieu politique, doit être ordonnée à la connaissance, une recherche de vérité. Et la recherche de vérité est ordonnée à l'amour. Eh bien, vous allez voir que toute la tactique du démon, c'est supprimer l'amour. Le démon est quelqu'un qui n'aime plus et tout amour l'irrite. Et il veut que l'intelligence ne soit plus une intelligence qui recherche la vérité, mais une intelligence qui ne recherche que l'efficacité. Donc, ordonner au dominium. Et le dominium n'est plus ordonné à faire des images, l'imago Dei, l'image de Dieu en nous, mais uniquement l'efficacité. Il y a dans le démon, dans Lucifer, une anti-sagesse. Et quel est le secret de cette anti-sagesse? C'est à la place de tout ordonner vers l'amour, tout ordonner vers l'efficacité, dans une séduction. Être tyran. Faire de nous des tyrans. Et vous retrouvez ça à travers toute l'histoire de la Bible. Dans toute la Bible, vous retrouvez ça. Le démon est heureux quand il fait de l'homme un tyran. Il domine. Et qui ramène tout à lui. Dans l'ordre de l'efficacité. Il cherche la vulnérabilité de la femme. Elle veut être première dans l'intelligence. Et le démon se met à son service. Je vais te servir et tu vas passer avant l'homme. Est-ce que tu veux lui donner un secret, il n'a pas. Semblable à Dieu par la connaissance du bien et du mal. Par la connaissance. Alors qu'on est semblable à Dieu par l'amour. Et l'amour implique et va impliquer l'obéissance. Je comprends très bien, voyez, comment un Freud va essayer de supprimer le point de vue de l'obéissance en disant que toute obéissance va nous mettre dans une attitude d'aliénation. Et par là, vous rendez l'obéissance odieuse. Et psychologiquement, vous ne pouvez plus l'expliquer. J'ai dialogué pendant de nombreuses années avec des psychanalystes freudiens. Et revenez toujours là-dessus. Comment se fait-il que vous êtes religieux et cependant, vous faites de la philosophie et vous êtes libre dans votre recherche de la vérité? Je lui dis, mais c'est justement la vie religieuse qui me permet ça. Alors ça, il ne comprenait absolument pas. Et je comprenais très bien que pour arriver à les remettre dans une attitude de vérité, il fallait leur faire comprendre qu'il peut y avoir un amour d'amitié spirituelle. Je me souviens de cette psychanalyste. Elle était très intelligente, c'était la plus intelligente. Qui avait été psychanalysée par une psychanalyste qui était juive, allemande, à New York. Elle avait quitté l'Allemagne au moment d'Hitler et elle me parlait tout le temps. Elle l'a fait venir en France. Parce que je voulais voir celle qui était à la source. Je suis tombé devant une psychanalyste freudienne positiviste, et un sang, un point que je n'ai jamais rencontré. Et on m'avait demandé, pendant 8 jours, d'être prêtre ouvrier, moine ouvrier, auprès d'elle. J'ai accepté, je pouvais le faire. Ça m'intéressait, du reste. Pendant 8 jours, un dialogue serré avec elle. Et au bout de 8 jours, elle a lâché le morceau. C'est-à-dire qu'au fond, il y avait une psychanalyse qui s'était faite. Devant tout le monde, on n'était pas nombreux, on était une dizaine. On dit, ah, père, comme vous me rappelez mon père qui était rabbin. Elle ne l'avait jamais dit. Et alors à ce moment-là, elle expliquait. Mon père rabbin disait, l'écriture, c'est le seul livre qui est vrai. C'est la vérité qui nous aide à l'écriture. Et alors, à 14 ans, elle a lu l'écriture avec la véhémence passionnée qu'elle pouvait avoir. Et au terme, elle a dit, j'ai opté pour la science. Parce que l'écriture n'est pas scientifique. C'est impressionnant de voir ça. Elle revenait au moment de son choix. Vous voyez, Ève, j'ai opté pour la science et non plus pour l'amour. La sagesse conduit à l'amour. La science veut un absolu en elle. Par le positivisme, pas par la science elle-même. La science est bonne, mais la science est relative. Elle est particulière, elle n'est pas sagesse. La sagesse est au service de l'homme. La science s'impose. Elle est partielle. Tant qu'elle est partielle, elle ne nous fait pas dévier d'amour. Elle risque de devenir une idole. Elle est devenue idole. Le démon tente la femme pour la faire dévier. Il n'a pas touché à l'homme. Il n'a pas eu besoin de tenter l'homme. Il s'est servi de la femme. Il s'est servi de la femme pour être celle qui ferait dévier l'homme. C'est aussi très intéressant de voir ça. L'habileté du démon. Il sait qu'il aura l'homme par la femme. Et c'est pour ça qu'il attaque la femme. Parce qu'il est intelligent. Alors il attaque celle qui est la plus aimée. Celle qui porte le secret de l'amour. C'est elle qui l'attaque. Pour la faire dévier. Dieu rééduque après la faute. Le rééducateur, c'est la sagesse de Dieu après la faute. Et le regard de Dieu sur le démon, sur la femme, sur l'homme, ce qu'on appelle la punition. C'est très mauvais de dire la punition. J'aimerais mieux dire Dieu qui reprend après le péché, la femme et l'homme, pour les remettre dans leur perspective d'image de Dieu. Quand il s'agit du démon, puisque le démon ne peut plus être éduqué, il refuse d'être éduqué par Dieu. Non serviable. Alors, c'est Dieu qui lui montre qu'il ne peut comprendre que la peine. Il a péché par orgueil. Dieu va le punir dans son orgueil. Et si vous regardez attentivement la punition de Dieu à l'égard Satan, à l'égard du serpent, c'est net. Parce que tu as fait cela, donc l'orgueil. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux. Donc, c'est une malédiction nouvelle. Pour mieux lui faire comprendre. Doit laisser passer devant l'œuvre de Dieu. Il le lie en quelque sorte à cette peine. Il y a une peine supplémentaire. Il est chassé du ciel, sa première faute. Il n'est plus un contemplatif. La seconde faute, dans la seconde faute, sur ton ventre tu marcheras. Et poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. Un pur esprit lié à la matière. Extraordinaire. Alors vous comprenez ce passage si difficile à comprendre dans l'évangile quand Dieu chasse le démon du muet. Et que tous ces démons qui sont là, ils sont légions, demandent d'aller dans les petits pourceaux. Et Dieu exauce, Jésus exauce leur demande. Ils prennent possession des petits pourceaux pour parce que le démon ne peut plus être seul. Il est mieux dominer sur les démons que d'être seul. Voyez l'anticontemplatif. L'efficacité pure, il ne veut que l'efficacité. Et l'efficacité, où est-ce qu'il la trouve? C'est sur la matière. Il veut dominer sur le monde. Il est lié à la matière. C'est à la fois sa peine et en même temps le seul lieu où il peut être. Lui, esprit, devient matérialiste. C'est pas l'homme qui est matérialiste, c'est le démon. C'est le matérialiste pur. Parce qu'il veut l'efficacité. Et il n'a plus que l'efficacité. Donc Dieu nous révèle par la punition qu'il fait au démon ce qu'il est en raison de son orgueil. Et Dieu l'attache à la matière pour qu'il puisse œuvrer sur cette matière et laisser la femme tranquille. Et c'est vrai que le regard de Dieu sur le serpent est très important pour nous. Il n'y a pas beaucoup de lieux où il nous est montré le regard de Dieu. Il y a Job, et puis ici, si on avait le temps, on regarderait le regard de Dieu sur Satan dans Job. Très différent. Et en même temps qu'elle m'aime. C'est un regard très différent parce qu'on ne peut pas le comprendre directement. Donc on le comprend dans des facettes diverses. À l'égard de la femme, la peine, c'est du côté de l'amour. Pour purifier son amour, elle sera dans la lutte du côté de l'amour. Le vrai drame du cœur de la femme, c'est toujours un drame affectif. Toujours. Et Dieu purifie son cœur par ses liens. Elle aura une propension vers l'homme. Et la libération de la femme, vous voyez, quand la femme veut se libérer pour être comme l'homme, c'est parce qu'elle n'accepte pas cette purification. Elle n'accepte pas d'être première dans l'amour. La plus grande difficulté pour la femme, c'est de comprendre que Dieu l'aime dans ce domaine de l'amour. Et que c'est là où Dieu veut qu'elle purifie son cœur. Et quand il s'agit de l'homme, c'est le travail. L'homme ne se purifie que par le travail. Et Dieu lui demande ça, un travail douloureux. Un travail qui produira des chardons. C'est pas drôle du tout. Un travail quelquefois inefficace. Il devra tout le temps. Tant qu'un homme travaille, il reste lié à Dieu. Tant qu'une femme cherche à purifier son cœur, elle reste liée à Dieu. C'est important de comprendre le regard de Dieu sur l'homme pécheur, sur la femme pécheresse. Dans son orgueil, Dieu veut réhabiliter le primat de l'amour. Dieu ne corrige pas la femme à cause de son erreur, il veut la purifier par l'amour. Il veut purifier l'homme qui se laisse aller aux séductions par le travail. Comment corriger nos séductions? C'est par le travail. Pour l'homme. Alors comprenons bien, ce qui est vrai de la femme est vrai pour l'homme, ce qui est vrai de l'homme est vrai pour la femme. Il ne s'agit pas de séparer, puisque les deux ont la même nature. Tous les deux sont image de Dieu. Mais il y a un chemin de purification qui est propre à l'homme et qui est propre à la femme. Si je regarde ça attentivement. Je vais maintenant regarder rapidement. Il faudrait le regarder attentivement, hein, parce que chaque fois c'est très important. La seconde tentation l'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par Yahvé. Et tout le mystère de la procréation. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, tandis que Caïn cultivait le sol. Ça se passe encore pas trop mal, voyez. Puisqu'ils se partagent bien la division du travail. Qui se fait pour être tranquille. La division du travail permet chacun de travailler dans son sens. Mais malgré ça, la jalousie va pénétrer dans le cœur des frères. Et la jalousie va pénétrer dans le cœur de Caïn. À l'égard du point de vue religieux. Or, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits du sol en oblation à Dieu. La première liturgie. Intéressant. Première liturgie. Malgré le péché, chassés du paradis terrestre, parce qu'ils sont chassés du paradis terrestre, hein. Il faut bien voir ce passage. Voilà que l'homme est comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il avance la main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il en mange et vive à jamais. C'est très curieux, cette parole. Je veux pas la commenter parce que, mais elle est extrêmement intéressante. Parce qu'on passerait tout son temps à ça. Elle est très forte. Yahvé Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme. Il posta à l'orient du jardin d'Éden des kérubim et la flamme du glaive tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est Dieu qui se gendarme contre le serpent qui donne de mauvaises idées à l'homme et qui fait que cette idée de prendre de l'arbre de vie va rester. C'est ça que ça veut dire. Le venin est pénétré. Et l'orgueil première a pénétré dans la race humaine. Et l'homme aura toujours le désir de se sauver par lui-même. Et quand le Saint-Père dit aux évêques, en venant en France pour la première fois, l'humanité d'aujourd'hui et l'Église d'aujourd'hui connaît une tentation comme elle ne l'a encore jamais vécue, le Saint-Père montre que ce venin premier a pénétré tellement le cœur de l'homme que l'homme veut se sauver par lui-même. Se sauver par lui-même, c'est prendre le fruit de l'arbre de vie. Voyez le lien. C'est pour ça qu'on vit quelque chose d'ultime. Parce que ça n'a jamais été dit comme ça. Alors on comprend ce que c'est l'arbre. L'arbre de vie. Nous imaginons un arbre auquel on va aller manger. C'est pas ça du tout. L'arbre de vie, il est en nous. Nous avons la capacité de dire non à Dieu et d'être un arbre de vie qui croit être une source absolue de vie dans l'immanence absolue, dans notre vécu et nous sauver par nous-mêmes. Voilà la terrible tentation d'orgueil. Dans une immanence, croire qu'on peut, par nous-mêmes, nous sauver. C'est ce que les pères de l'Église ont tellement bien compris quand ils ont vu que seul le Fils de Dieu s'incarnant pouvait nous sauver. De la première faute, c'est-à-dire l'orgueil. Seul le Fils de Dieu est lavé par le mystère de la croix, la suprême humilité, en acceptant d'être considéré comme un esclave. Vous voyez, comme ça se tient, cela, si on essaie de comprendre un peu, et que, après la mort du Christ, les hommes recontinue d'essayer par tous les moyens de se sauver par eux-mêmes. C'est la grande tentation d'orgueil. Être pour nous-mêmes notre propre sauveur. Et alors, Dieu nous montre le danger. Il met un kéroubin à la porte de l'Éden pour nous empêcher de cultiver en nous cet orgueil. Dieu nous montre que le grand danger permanent, constant, c'est de vouloir se glorifier soi-même par l'exaltation de notre intelligence et de croire que notre intelligence est capable de nous sauver. Alors il y a le chérubin qui est là. C'est un symbolisme merveilleux. C'est Dieu qui interdit l'homme de s'exalter de cette manière. Parce que s'il fait cela, il prend le chemin du serpent. C'est-à-dire que le venin du serpent devient sa vie. Tant qu'il est venin, on peut lutter. Mais le jour où ce venin s'identifie à notre intelligence, philosophie hégélienne, c'est le venin qui s'identifie à notre intelligence. Nous nous sauvons nous-mêmes. Je ne dis pas que Hegel veut le faire par son intention, mais je dis objectivement, c'est ça. C'est que l'intelligence pense par elle-même se sauver. Le salut venant de l'intelligence, en se servant même de la foi, et en la dominant. Alors il y a ce kéroubin. Il faut toujours comprendre ce langage symbolique de l'intérieur. Ne restez pas en face de l'image. Et comprenez la signification profonde. C'est que Dieu montre le danger terrible qui demeure. Et c'est pour ça qu'il met un chérubin. Un chérubin, c'est un contemplatif. Seul le contemplatif peut comprendre ça. Seule la sagesse peut comprendre ça. Et le chérubin représente la sagesse, une sagesse d'amour. Il est à la porte. Alors nous voyons chassés du paradis. Ils sont chassés du paradis. Et malgré cela, l'homme demeure religieux. Et ça, c'est contraire complètement à la vision de Luther. Si Luther avait été plus attentif aux 11 premiers chapitres de la Genèse, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Parce qu'on voit bien qu'un qui veut offrir à Dieu les fruits du sol, en oblation à Dieu. Premier moment liturgique. Abel de son côté, c'est le Benjamin. Caïn, c'est l'aîné. Alors on va retrouver la loi de l'aîné du Benjamin. Abel de son côté présenta les premiers nés de son troupeau, ainsi que de leur graisse. Il y avait portant ses regards et vers son oblation, mais vers Caïn et vers son oblation, il ne les porta pas. Alors vous dites là, injustice formidable de Dieu. Il a une préférence pour Abel, le petit Benjamin. Et Caïn, non, non. Attention. Un langage anthropomorphique, symbolique. Pourquoi ? C'est facile à comprendre. Quand on adore Dieu, on jette sa couronne, comme il est dit dans l'Apocalypse. On ne peut pas adorer Dieu sans jeter sa couronne. C'est un passage très très beau dans l'Apocalypse, quand on voit les 24 vieillards qui adorent Dieu. Autrement dit, le savant comme savant ne peut pas adorer Dieu. L'homme prudent comme prudent ne peut pas adorer Dieu. tout ce qu'il a de grand vient de Dieu. Tout ce qu'il a de bon vient de Dieu. Il jette sa couronne. C'est la petite créature spirituelle qui adore Dieu. Seule la créature adore Dieu. Le président de la République, comme président de la République, ne peut pas adorer Dieu. Je prends formellement, hein, mais il le faut. Parce que Dieu veut qu'on adore comme une petite créature qui est entre ses mains et qui dépend totalement de lui. Je ne peux pas adorer Dieu en raisonnant. Parce que les raisonnements, c'est encore une couronne. C'est de l'acquis. C'est de l'avoir. Tout notre avoir doit être jeté bas pour adorer Dieu. Alors ici, on voit très bien qu'un adore en louchant. Un œil sur Dieu, un œil sur Abel. S'il n'avait pas louché, il ne serait pas aperçu qu'Abel adorait de façon magnifique. Il ne jette pas sa couronne d'aîné, de fils aîné. Il veut qu'Abel adore selon son rythme. Un petit cadet. Et qu'il adore relativement avec la main dans la main. Tu es mon aîné, c'est toi qui vas m'apprendre à adorer. Pas du tout. Toute créature raisonnable, spirituelle, a une âme qui est créée directement par Dieu. Sans passer par le conditionnement social et familial. L'adoration nous libère de tout conditionnement psychologique. C'est la grande libération. On est seul en face de Dieu. On dépend totalement de Dieu. On est dans les mains de Dieu. C'est merveilleux l'adoration. Si on vivait plus de l'adoration, il y aurait moins d'angoisse. L'angoisse provient de ce conditionnement qui nous sert, qui nous sert, qui nous sert. Conditionnement psychologique, conditionnement sociologique. L'adoration nous met seul en face de Dieu. Quand on adore, on est seul en face de Dieu. On est reclus en Dieu. Et on ne dépend que de lui. Abel adore comme cela. Cain adore en louchant. L'adoration supprime toute curiosité. Et on est seul radicalement en face de Dieu. C'est ça qui nous purifie. C'est pour ça que je dis que le savant, comme savant, n'adore pas. Le philosophe, s'il oublie la sagesse et qu'il regarde uniquement sa connaissance, n'adore pas. L'artiste, comme artiste, qui se croit créateur, n'adore pas. C'est l'homme. Il sait qu'il a une âme spirituelle créée directement par Dieu. Et voyez, c'est là la tentation terrible d'aujourd'hui. On ne veut plus parler de l'âme. Et on ne parle plus que de la personne. C'est très bien de parler de la personne. Je suis tout à fait pour. Mais on ne peut pas dire que Dieu crée notre personne. Nous la faisons, notre personne. Progressivement. C'est notre avoir. C'est notre tout. Faisons attention au pharisaïsme de la personne, au plan philosophique. Et revenons à ce qui est à la racine de la personne qui ne vient pas de nous, qui est le don de Dieu, notre âme spirituelle. C'est notre âme spirituelle créée immédiatement par Dieu qui nous apprend ce que c'est. Et qui supprime tout pharisaïsme. On est seul en face de Dieu. Et on adore. Je crois que c'est capital pour nous. La seconde faute, elle est à l'intérieur de l'adoration. Une adoration qui, extérieurement, elle est parfaite. ver rongeur, c'est l'inquiétude de Caïn à l'égard du petit frère cadet. Qu'est-ce qu'il fait, mon petit? Il m'oublie. Il est avec Dieu. Alors, il voudrait garder son droit d'aînesse et adorer Dieu. Or, on ne peut adorer Dieu que si on lui remet tout avoir, tout notre avoir, tout ce qu'on a acquis, la dignité de notre personne. On lui remet tout. En face de Dieu, on n'est rien. On adore Dieu dans cette nudité. Nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, je retournerai vers Dieu. C'est Job qui dit ça. Il a compris. Alors on voit très bien que cette adoration qui n'est plus ce qu'elle devrait être, donc qui est pharisienne, il est satisfait d'adorer. Il fait tous les gestes qu'il faut. Il fait une liturgie extérieure parfaite. Et le cœur n'y est pas. Alors on comprend. Et ça, c'est ce langage qui nous fait comprendre ce point de vue-là. Yahvé porta ses regards vers Abel et vers son oblation. Et vers Caïn et vers son oblation. Il ne les porta pas. Pourquoi? L'oblation d'Abel est pure. L'oblation de Caïn n'est pas pure. C'est pour s'engraisser lui-même. Je suis bien, puisque j'adore Dieu. Caïn entra en grande colère et eut le visage abattu. Il ne peut pas supporter qu'Abel lui échappe. Par l'adoration, on échappe à tout le monde. Quand il y a des parents trop possessifs, adorons. Dieu veut le corriger. Dieu sait très bien pourquoi il est en colère. Mais il veut l'aider à avouer sa faute. Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi as-tu le visage abattu? Comment voulez-vous adorer quand on est en colère? La colère, c'est le désir de dominer. C'est l'irascible. On veut dominer. Il veut dominer Caïn. Il veut dominer Abel. Il ne veut pas le lâcher. Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Mais si tu n'agis pas bien, le péché n'est-il point tapis à la porte? Vers toi se porte son désir, mais à toi de dominer sur lui. C'est merveilleux cette correction. On est en face du premier moment de la jalousie. Mais qu'elle est vite née la jalousie. Après l'orgueil, la jalousie. L'orgueil face à Dieu. La jalousie face au prochain et face au petit cadet, au petit dernier. On est plus facilement jaloux vis-à-vis des petits derniers que vis-à-vis des aînés. Vis-à-vis des aînés, on peut toujours se dire, c'est pas étonnant qu'ils sont si bien, ils sont plus âgés, quand j'aurai leur âge. Je le serai avant. Les petits cadets, non, c'est passé. Ils ne peuvent pas rattraper. Et ce qui est effrayant, c'est que les petits cadets sont beaucoup plus parfaits. hyper violente. À l'intérieur, du point de vue religieux, ils ont reçu la même éducation. Ils ont été tous les deux chassés du paradis terrestre. Les conséquences du péché originel ont poussé plus vite dans le terrain Cain que dans le terrain Abel. Ah, c'est curieux, ça. Abel a dû lutter beaucoup plus. Cain est content de lui. Il est l'aîné. Il en est fier. Vous voyez comment pousse la jalousie ? Par une curiosité qu'on n'a pas arrêtée. Quand quelqu'un adore Dieu, on n'a pas le droit d'être curieux vis-à-vis de lui. Il est caché en Dieu. Complètement caché en Dieu. Il est reclus en Dieu. Dieu l'a pris. C'est ça l'adoration. C'est un acte extraordinaire, l'adoration. On remet tout, tout dans les mains de Dieu. Donc on est dans les mains de Dieu. Caché dans les mains de Dieu. Et Cain veut pénétrer dans le secret d'Abel. On est toujours jaloux à l'égard de quelqu'un qui a un secret et qui porte un secret. Ce secret de ce lien avec Dieu, ce secret religieux de l'adoration. Et cette curiosité anime alors cette jalousie farouche. Dieu corrige Cain. Cain est dans une telle colère qu'il n'écoute pas Dieu. Et Dieu a bien précisé, hein, si tu agis bien, ne te releveras-tu pas? Donc si tu agis bien, tu dois te calmer. Si c'est très simple, tu as bien agi, mais calme-toi. Si tu as mal agi, ah, alors attention, le péché n'est-il point tapis à la porte? Alors ça, c'est aussi très intéressant. Il n'y a plus de serpent ici. Il n'y a plus de serpent. C'est pas étonnant. C'est après la première faute. Les conséquences du péché originel subissent. Le serpent se tourne les doigts. Il est par terre. Plus besoin d'être là. C'est suffisant. Les conséquences de la première faute. On a une peine énorme à adorer. On doit apprendre à adorer. Être dans la nudité en face de Dieu. Complète. C'est pas commode. Parce que notre avoir colle à notre peau. Et nous l'aimons d'autant plus qu'on a eu beaucoup de peine de l'acquérir. C'est pas commun d'être humble. Et c'est pas commun d'adorer. C'est par l'adoration qu'on acquiert l'humilité. Il n'y a pas d'autre voie. Et une humanité qui n'adore plus va vivre dans un orgueil collectif. Dans un pharisaïsme collectif. Dans un avoir. Tout nous appartient, puisque c'est notre avoir. Alors on sait très bien ce qui va se passer. Cain dit à Abel, son frère, allons dehors. T'es toujours dehors. Parce que comme il est crime, le Christ a été tué en dehors de la ville. Or, tandis qu'ils étaient dans la campagne, Cain se dressa contre Abel, son frère, et le tua. Yahvé dit à Cain, où est Abel, ton frère? Il dit, je ne sais pas. Vous voyez la jalousie, le coupe de son frère, et le coupant de son frère, puisqu'il le tue. Il ment à Dieu. Adam s'était excusé. comment le péché supprime la responsabilité. Progressivement, c'est l'orgueil qui nous enlève la responsabilité. C'est pour ça que c'est la responsabilité qui fait revivre en nous le point de vue moral. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi du sol. Ah, le sang. Premier moment où on voit le sang. Jusqu'au sang de Jésus. Versé sur la terre. La voix du sang de ton frère crie vers moi du sol. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. C'est extraordinaire ça. Fratricide. On porte la main sur son frère. Et tous les hommes sont nos frères. Tu es son frère. Alors à ce moment-là, il y a une lutte interne, radicale, qui touche le sol. Il ne peut plus y avoir de coopération entre le sol et l'homme à cause fratricide. Lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa vigueur. Errant et fugitif, tu seras sur la terre. Plus de finalité. Les deux finalités, c'est Dieu et l'homme. Si on ne peut plus aimer son frère, on n'a plus de finalité, on devient un errant. Celui qui n'aime plus son frère, celui qui n'aime plus Dieu, est un errant. Un fugitif. Errant et fugitif, tu seras sur la terre. Qu'un dit à Yahvé, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui de dessus la face du sol. Vous voyez, chasser de l'Éden, chasser de la terre, du sol. Conséquence du péché. Vous voyez, il y a quelque chose de cosmique. Bien comprendre. L'homme est lié à la terre et l'homme permet à la terre de remonter à Dieu. Il y a tout le cosmos de glorifier Dieu. Et en n'adorant plus et en tuant fratricide, il devient un errant. Il y a une inimitié entre le sol, la terre et lui. Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui du dessus de la face du sol et de ta face. Donc la face du sol est la face de Dieu. Et de ta face, je dois me cacher. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et alors quiconque me rencontrera, me tuera. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la terre. C'est là où on voit le mythe, vous voyez. C'est illogique complètement. Et c'est très fort. Il y a une profondeur là. Quand on a tué le plus petit, quand on n'a pas respecté le tout petit. Quand on voit bien cela, quand la mère porte son enfant, elle est la terre qui porte, la bonne terre. Et si pour une raison ou pour une autre, elle veut avorter, on voit bien les conséquences. Une sorte d'opposition qui se fait entre la terre. protecteur de Cain. Là, nous comprenons ce que c'est que l'amour du Créateur, l'amour d'un père. Même si son fils, comme il est pire crime, il reste le fils. Et le père sera là pour le venger. C'est la paternité de Dieu là qu'on découvre. Vous voyez, dans Osée, on retrouve quelque chose de semblable. Mais ici, c'est une force, j'allais dire, fondamentale et métaphysique. C'est le Créateur qui est le Créateur et qui reste le Créateur. On reste dépendant de Dieu. L'acte créateur de Dieu est actuel pour Cain, puisque tu as créé son âme. Même si Cain se conduit comme un vaurien à l'égard de son petit Abel, tu restes. Il ne pourra pas se venger. L'homme ne peut pas prendre la place de Dieu au niveau de la justice. Il ne peut pas. Et s'il le fait, il sera sept fois puni. Et il y avait mis un signe sur Cain pour que ne le frappe pas quiconque le rencontrerait. Cain se retira loin de la face de Yahvé. Il habita au pays de Nod, à l'est de l'Éden. Il y a un partage qui se fait ici. Le péché, j'allais dire, qui s'enracine de plus en plus. Conséquence du péché. Ève n'a pas tué Adam. Cain tue Abel. Seconde faute, contre la charité fraternelle. La jalousie. Et le thème de la jalousie, il faudrait le prendre ici. Vous le trouvez à travers toute l'écriture. On met Joseph dans le puits. Et par jalousie, les grands prêtres livrent Jésus. Refuse de recevoir ce cadeau et laisse la jalousie aller jusqu'au bout. Jalousie fratricide, jalousie pontificale, jalousie religieuse. Voyez, c'est très très fort ça, parce que ça montre que la passion religieuse, c'est la passion la plus profonde en nous. C'est pour ça que le refoulement de la passion religieuse, une laïcité poussée à l'extrême, conduit nécessairement à l'angoisse. Et l'angoisse conduit au suicide. D'empêcher un enfant d'adorer. Parce que l'appétit le plus profond qui est en nous, c'est un appétit religieux, c'est une passion religieuse. Alors quand on refoule cela, c'est le pire des refoulements. Et donc ça détraque tout. C'est ça que ça nous apprend. Hein. Jalousie religieuse qui brise la communauté. Toute jalousie religieuse brise la communauté. C'est pour ça que dès qu'on sent une jalousie en nous, fratricide, du moins une jalousie fraternelle et religieuse, il faut tout de suite l'arracher. Parce qu'elle conduit à un homicide, pas direct, parce qu'on veut garder les mains propres, mais indirect. Chaque fois qu'on peut, on dit du mal de cette personne. Oh, elle est idiote. C'est idiot. Ça fait complètement. Jalousie. Jalousie intellectuelle. Des intellectuels. Jalousie des. fait à l'égard du regard de Dieu sur nous, chez les spirituels. La seconde faute, c'est la jalousie. Et vous voyez que cette faute n'implique pas de tentation extérieure. Et la tentation est interne. Autres ou de Dieu.